Alors, maintenant, tout de suite, un son. C'est un son qui a été capturé pendant l'AG qui avait lieu à Broca. Et c'était justement un des lycéens qui intervenait.
Bonjour.
Nous, on est des lycéens et des lycéennes. Personnellement, on est plus deux, plus trois, plus cinq. On avait décidé de... voilà, on avait besoin de l'Assemblée Générale à l'unanimité des présents, le caucus de ce matin. Seulement, la police est arrivée.
Maintenant, la chaufferie, 18 rue du Cloître. Et voilà, le lieu qui s'est ouvert pendant le mouvement, maison du mouvement. Pour parler de ça, à nouveau Octave, mais aussi Décibel et Hermione. Et bon, voilà, bah, c'est à vous de commencer. Allez-y.
Alors, ici c'est Domino. J'étais aussi principalement au 18 rue du Cloître, la chaufferie. Pour présenter le lieu, peut-être un truc historique, c'est dans toutes les initiatives autonomes qui se sont faites, là, dont on discutait tout à l'heure, il y avait aussi en fait, les forums ouverts de On vaut mieux que ça, qui ont ramené pas mal de gens, en fait, principalement dans un désir de convergence des luttes, et principalement asyndicales et sans parti politique. Et au cœur de ça, enfin dans tout ce que ça a été entre autres une petite bande en fait qui s'est retrouvée quand même très très régulièrement pour ouvrir un lieu en se disant en fait que ce serait l'occasion de d'ouvrir une maison du mouvement. Voilà, l'adresse au 18 rue du Cloître, ça a été un peu, c'est apparu un peu par magie et ça, c'était pas quartier Saint-Michel, une maison sur trois étages où il y a une cave et donc la possibilité d'en faire un lieu collectif très très classe. Et voilà, du coup peut-être que Décibel peut un peu raconter comment raconter un peu. Voilà.
Ouais. Ok, du coup. Décibel à l'antenne. voilà, du coup, la chaufferie, c'était un petit peu rassembler les personnes qui voulaient un petit peu agir en dehors des clous, des intersyndicales et des pratiques militantes normales, c'est comme on avait déjà parlé. C'était surtout, on était tous réunis derrière l'idée qu'il fallait monter d'intensité dans le mouvement et qu'un lieu, c'était super nécessaire pour s'organiser, se rencontrer. En fait, c'était en vrai pour créer des conditions pour... pour un petit peu des personnes qui s'étaient rencontrées au niveau de Broca du mois d'avant de la mobilisation, des personnes qui avaient un peu confiance en elles sur vraiment sur cette idée-là. Du coup, on est parti entre une bande de jeunes avec des migrants. On a ouvert ce lieu qui a duré environ 2 mois, je crois, un truc comme ça. Voilà. Alors du coup, voilà, c'est durant tout la mobilisation, on a eu quand même beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont venus s'organiser, qui sont venus passer des soirées, faire des concerts à la chaufferie. C'est devenu plutôt une maison de la jeunesse, plus que la maison du mouvement avec toutes ses composantes en fait. Du coup, en fait, comme on revient un petit peu sur ce qui a été dit juste avant, mais c'est arrivé à un moment où le mouvement a pris de l'intensité, où il y a eu des blocages lycéens qui étaient plutôt répétés. Il y a eu l'occup du TNBA par la CIP, les blocages du collectif de lutte de la rive droite, et beaucoup de départs en sauvage à partir des manifs qui, en vrai, à Bordeaux, ça faisait un peu plaisir à voir. Donc on pense que la chaufferie a eu un petit rôle à jouer là-dedans, à relativiser aussi, parce qu'on n'était pas, non plus super nombreux. Donc voilà, il y a eu beaucoup de concerts. Non, pas beaucoup, il y a eu quatre concerts.
Ouais.
Qui a ramené beaucoup de monde. Il y a eu une vie à l'intérieur qui était plutôt chouette, où il y a eu des hauts et des bas, bien sûr. C'était aussi une organisation qui était vachement du jour au lendemain, ce qui est un peu parfois péché. Mais ce lieu, on pense qu'il a appuyé beaucoup d'initiatives. Peut-être ça a dû ramer un petit peu sur le but premier qui était de créer un espace pour s'organiser. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient, qui étaient en attente de propositions. Avec un petit peu un flou d'organisation, mais du coup ça a eu un peu du mal à bouger. Sur le fond, on n'a pas pu tenir, je crois, des AG sur toutes les semaines où on parlait vraiment d'un truc politique fort qui nous rassemblait. Et voilà.
Il y a eu quelques temps forts qui étaient vraiment bien, c'était surtout au début de la chaufferie. En fait, quand on a pensé ce lieu, c'était principalement, on voulait répondre à un désir qui était là, qu'on nous disait, qu'on sentait, à la fois on savait pas trop qui, quoi, comment, mais qui avait besoin d'un lieu pour s'organiser, et puis ça, en fait, à un niveau très large, syndicat et c'est non syndiqué, enfin. Et il y a quand même eu en fait un moment clé, je pense, qui pour nous aussi a déterminé le fait que en fait toute la dimension syndicale et tout ça, ben, on est un peu indifférent par rapport à ça. C'est que suite à la manifestation du 28, il y a eu donc c'était le cortège jeune qui proposait en fait une scission pour aller bloquer la gare. Je me répète, mais. Et en fait, à ce moment-là, suite à ça, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens de la CGT, de Sud, des différents syndicats qui se sont rattachés au mouvement. Il y a une force qui s'est constituée là. Et toutes les grosses bases syndicales, en fait, qui étaient plutôt très énervées par rapport à ça. Et on était quelques-uns après ça, depuis la chaufferie, à se dire bon, mais il faut aller dialoguer avec les syndiqués. Enfin, et on est allé à la maison des syndicats à Bassens pour essayer de discuter avec eux, voir en fait comment on pouvait faire en sorte que les prochaines manifestations elles aient de la gueule ensemble. Et en fait, on a eu un retour super froid, super méprisant, où en fait, même dans la discussion, c'était des gens de la CGT principalement, ils étaient 4-5, même entre eux, c'était très tendu, ou une personne qui disait non, mais. En fait, moi, ça me rend fou. En fait, je suis super content de ce que vous avez tenté là, les jeunes et tout ça. Moi, individuellement, je serai là. Par contre, la CGT, les syndicats, ça s'engageront jamais collectivement. Du coup, la chaufferie, ça a été principalement ça. C'était des individus, en fait, qui se retrouvaient là. Ce qui a fait aussi sa faiblesse, parce que c'était, du coup, des petites individualités qui avaient juste la force d'une individualité. Et voilà, enfin, du coup, moi j'insiste pour dire que la chaufferie c'était très cool, que c'était un moment de vie, enfin, c'était contradictoire, c'était à la fois un lieu politique, à la fois un lieu d'habitation, et ces deux choses, elles ont à la fois, je pense, fait sa réussite et son échec. Enfin, là en gros, toute la dimension politique, la chaufferie ça n'existe plus, par contre, il y a toujours les migrants avec qui on a pensé le début, qui y vivent, qui y habitent. Voilà, je sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, si vous voulez passer, c'est toujours possible.
Ouais.
Moi, je crois que j'avais envie de parler très rapidement des migrants et du rapport qu'il y a eu à eux, parce que ce lieu, je pense qu'il serait pas ouvert, sans eux, en aucune manière. Et en même temps, l'ouvrir avec eux, ça nous a posé énormément de questions. Je pense qu'ils restent en suspens, parce que comme on vient de le dire, c'est toujours ouvert et maintenant il y a leur dimension qui joue et plus tant celle du mouvement en lui-même. Mais ils gardent, j'ai l'impression qu'ils veulent essayer de garder une sorte de lieu politique malgré tout. Et je crois que sur le moment, pendant qu'on se voyait toutes ces journées passées à discuter avec eux, c'était plein de hauts et de bas parce que c'était extrêmement difficile de jauger de la capacité pour eux à vivre dans un lieu politique et surtout à en avoir envie, en fait. Et surtout, comment est-ce que, dans l'opportunité qui nous était ouverte, on était plein d'énergie pour ça. Et la manière dont elle a été ou non reçue, je crois que c'est quand même quelque chose sur laquelle faut se questionner. Je pense que c'est pas anodin qu'il y ait des gens migrants avec ou sans papier qui aient le désir de vivre dans un lieu politisé, qui aient le désir de vivre de cette manière-là et qui en fait se retrouvent confrontés à ce truc-là finalement d'un bloc au cœur d'un mouvement là où les enjeux sont pas forcément les mêmes. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose à laisser penser là-dedans.
Ouais, moi je voudrais juste revenir aussi sur quand même le truc de la chaufferie et des manifs, c'est que sur les manifs il y a eu un avant et un après la chaufferie quand même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu la chaufferie, il y a quand même un truc, il y avait un cortège chaufferie, lycéen, individualité qui s'est créé où c'était un peu la place to be quoi. Tous les mecs qui venaient, genre que ce soit un peu les icos, les étudiants qui sont... On voit que le milieu étudiant là sur Bordeaux est pas très politisé, donc les rares étudiants qui venaient, les gens des beaux-arts, enfin des milieux un peu comme ça qui sortent des milieux politisés habituels, fallait suivre ce cortège là quoi. C'était là-bas qu'il fallait aller. Et ça c'était... C'est sur toutes les manifs qu'on suit la chaufferie, ça a été le cas en fait.
Ouais, mais de manière générale, je pense que les personnes qui sont passées par la chaufferie et tout ça, qui en étaient ou pas quotidiennement, je pense qu'il y a un désir qui persiste, même si celui-là est fini. C'est avoir trouvé d'autres lieux et de deux, en fait, faire en sorte que cette énergie-là de rencontre, parce que ce qui était très classe, c'est quand même en fait toutes les histoires de milieux qui jusque-là à Bordeaux alourdissaient vachement la situation politique. Il y a quand même pas mal de personnes en fait qui se détachent de ça et qui il y avait à nouveau des discussions politiques comme on en a rarement en fait. Et je pense que ce truc-là, vraiment, il y a beaucoup de gens à Bordeaux qui sont chauds pour que ça continue d'une manière ou d'une autre et on lâche rien quoi.
Et du coup, ouais, peut-être aussi un truc qui a peut-être manqué un peu, c'était le côté matériel. Ouais. D'être organisé en fait en avance. Du coup, si dans l'idée qu'il y ait des gens qui se remotivent à lancer un truc comme ça, big up déjà, mais sinon c'est penser au truc de matos. Voilà, toutes les idées, toutes les envies qui sont faisables, en parler avant, être prêt avant en fait pour les réaliser. Voilà, je pense qu'il y avait des supers envies qui sont passées par là, ça a donné vraiment plein d'idées à plein de gens. Faut pas que ça retombe. Et il y a énormément de choses qui ont vu le jour dans la chaufferie et on a passé des super moments quoi. Du coup c'est un petit peu le truc de, on réaffirme à ce moment-là la nécessité d'avoir des lieux en centre-ville où on puisse avoir une présence autant entre nous pour se rencontrer, s'organiser, mais aussi pour avoir vraiment une présence forte sur le truc de reprendre la rue, de reprendre ce qui est un enjeu super important dans une contestation quoi.
Mais par rapport à ça et en fait revenir sur les forces en présence, je pense que depuis la chaufferie, il y a aussi eu la rencontre avec le collectif de Bassens qui était, c'est appelé une intersyndicale, mais principalement les gens qui étaient là-bas, c'était en gros des petites sections de syndicats, c'était genre Sudrail, CGT Ford, en fait des sections qui sont plus ou moins en train de se faire virer de la CGT et qui ont envie de faire des choses conséquentes, qui ont de la gueule. Plus des étudiants qui étaient là aussi parce que la fac c'était fini, plus des gens de la chaufferie, plus des gens de par-ci par-là quoi. C'était un collectif qui avait déjà existé en 2010 et en fait ils l'ont réactivé pour ce mouvement-là. Et principalement eux, ce qu'ils proposaient c'était blocage de l'économie, donc des actions. C'était ce qui était assez fort dans ces discussions, c'était que on savait très bien les limites, on n'avait pas forcément les mêmes perspectives, tout ça, mais en tout cas il y avait un front commun, c'était de faire des actions qui soient des gros coups quoi. Et principalement c'était l'idée de faire perdre de l'argent. Du coup il y a eu plusieurs actions, c'était je sais plus, il y a eu un des plus gros je pense, c'était le blocage du périph' la semaine dernière. Après il y a eu des blocages de centrales d'achat à Auchan,
Leclerc,
il y a eu la zone de fret
DHL,
je sais plus quoi, enfin voilà.
Il y a eu celle du sud-ouest aussi.
Sud-ouest, ouais. Et ça pour le coup c'était un moment aussi où
qui faisait pont entre un peu toutes les, tout ce qui faisait corps dans ce mouvement-là. Et je pense que ça nous a donné confiance. Et même dans les manifestations sauvages, en fait, tu sentais que ça se complétait. En fait, le fait d'avoir partagé ces occupations, le fait d'avoir de se retrouver à la chaufferie, en fait, dans les manifs sauvages, qui peuvent être des moments un peu délicats, parce que il y a de la confiance. Tu sentais dans les regards, en fait, juste les gens étaient contents de se capter, d'avancer ensemble et d'aller toujours un peu plus loin dans la détermination. Du coup, c'était c'est cool.
Voilà. Et du coup, ouais, juste pour revenir à la nécessité d'ouvrir des lieux en ville, le choix de Saint-Michel, c'était pas par hasard. C'est un quartier qui est en ce moment en train de se faire racheter, de se faire aménager. La place Saint-Michel a déjà été refaite, etc. Et c'était peut-être. On a trouvé que c'était une bonne cible.
Il y a tout un groupe dont on oublie de discuter, c'est la CIP, mais qui était là en fait de manière. Pareil à la chaufferie, de manière individuelle pour certaines personnes, et puis d'autres qui ont fait des occupations. Mais voilà.
On continue. Merci à Domino, Octave, Décibel et Hermione de nous avoir fait le récit de la chaufferie. Avant de passer à la CIP, il y a un morceau qu'on va entendre, Brooklyn, du groupe Young Blonde Brass Band. Potlatch 90.1 sur la clé des ondes. Voilà, donc je vous rappelle le numéro de téléphone pour nous joindre et nous avoir en direct. Je dis bien nous avoir en direct. C'est le 05 56 50 69 99. Et l'émission sera aussi podcastée sur son blog, donc Radio Potlatch. Potlatch, comment ça s'écrit? Alors, ça s'écrit en P comme pin, O comme orgasme, T comme tentacule, L comme loutre, A comme Annabelle, T comme tentacule, j'ai bien dit, C comme couille et H comme haricot vert. Et donc, on continue. J'ai même pas fini l'adresse du blog, donc radiopotlatch.noblog, avec un S à blog.org. On continue avec la question de la CIP et Heide introduit. Vas-y.
Donc, une des forces de ce mouvement, ça a donc été et ça reste la coordination des intermittents et précaires, la CIP. Qui s'organise au niveau national et régional. Et ici, à Bordeaux, après avoir occupé le TNBA, la CIP a très vite invité au théâtre toutes les personnes, syndiquées et non syndiquées, à venir décider ensemble de la suite du mouvement. Nous étions nombreux à répondre à cette belle invitation, à ce beau geste, qui faisait écho à l'occupation de l'Odéon à Paris du 26 avril. C'est depuis le TNBA, notamment, le soir du 10 mai, après que le gouvernement ait décidé de passer en force avec l'article 49.3, qu'une assemblée se levait et se dirigeait spontanément vers la victoire, afin de scander sa colère dans les rues bordelaises. Du TNBA hier et depuis Barbé aujourd'hui, on continue donc à vouloir tenir tête. Et voici quelques mots d'une personne de la CIP.
Et donc en 2016, avec la loi El Khomri, l'article 52 dit qu'à nouveau Pôle emploi a le droit d'aller ponctionner directement sur le dos des plus précaires. Il faut savoir qu'il y a un taux de suicide énorme. Hein. C'est assez proche d'ailleurs de chez les CRS. Hein. Bon, bref. Ce qui est important de retenir, c'est que donc en 2016, on s'est mobilisé aussi et on a eu envie, voilà, d'aller occuper le TNBA. Clairement.
Quel sens ça avait à ce moment-là quand tu dis occuper, parce que occuper ça peut avoir plusieurs modalités. Et genre là, quand vous décidez d'aller occuper le TNBA, déjà symboliquement pourquoi le TNBA et comment vous. Enfin c'est quoi, vous dites on va rester là jour et nuit, qu'est-ce qu'on va y faire, qu'est-ce qui se passe, et puis stratégiquement, pourquoi
Ben en fait il y a un. Je sais pas, il suffit de voir le tableau, aujourd'hui où ça en est dans le dialogue social, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a clairement pas de dialogue. Donc nous, à un moment donné, on veut se faire entendre, même quand c'est illégal et qu'on nous dit « mais non, c'est légal », et que finalement on dit « ah ben si, c'est illégal, désolé, ouais, c'est vrai ». Non mais voilà, on va le faire passer légal. Non mais on ne se fait pas entendre, donc à un moment donné, on va aller occuper un lieu où il y a des gens qui travaillent dans le secteur culturel. Et le TNBA en fait partie, le conservatoire, l'atelier, le TNBA, et c'est une maison du peuple, un théâtre, c'est un lieu de rencontre, et donc c'est là où on peut prendre la parole, rencontrer les gens, et on n'a pas bloqué les spectacles, mais on a fait aussi de la sensibilisation auprès du public, en prenant la parole avant et après les spectacles, et on a fait des événements aussi.
Et t'en gardes un bon souvenir, ou même, selon toi, c'est une réussite, ou ça a échoué, ou est-ce que ça a échoué, ou pourquoi vous avez décidé à un moment de lever l'occupation?
On a décidé de lever l'occupation pour aller occuper un autre lieu, qui est le théâtre de Barbé, la Rock School de Barbé plutôt, qui est une scène conventionnée, qui est une SMAC, c'est-à-dire qu'il y a des budgets de la région et de l'État. Et voilà, on essaye. Là où ça a été un peu un échec au TNBA, c'est que l'équipe était d'accord, mais elle n'avait pas le choix de toute façon d'être d'accord pour être occupée. On n'est pas forcément d'accord d'être occupée, mais en fait, bon, il n'y avait pas du tout de salariés qui est venu. Ils étaient un peu d'accord avec nous, mais ils n'ont pas fait grève pour autant. Après, on a été reçus, on a eu les locaux. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, si on veut montrer qu'on est présent, en fait, c'est en, c'est en, c'est en étant présent sur des lieux comme ça, qui sont les lieux culturels vivants. Et c'est important de dire aux gens qu'il y a une urgence, parce que c'est pas une fois qu'on va vraiment souffrir en fait qu'il va falloir s'organiser.
De quelle manière s'occuper la Rose School, c'est ça ? Vous occupez pas la nuit, c'est ça ?
On n'occupe pas la nuit, non. Ça a été voté en AG, donc contrairement au TNBA où on occupait jour et nuit, à la Rock School on occupe le jour, on a une permanence de jour et on fait des interventions lors des spectacles, mais comme au TNBA on ne bloque pas la programmation.
Et je sais pas, entre les gens qui viennent tous les jours, etc., j'imagine qu'il y a des choses qui dépassent complètement le cadre de la lutte et qui est des liens, des envies, une vie plus collective.
La CIP, en fait, la CIP, c'est
pas... le moment de lutte, on l'assimile souvent à un moment un peu dur, alors que ça peut être aussi un moment hyper chouette de partager plein de choses dans la journée.
Ah mais c'est hyper chouette parce que c'est riche humainement et qu'en fait on partage des idées et une certaine conscience de ce qui est en train de se passer, donc on est plus connecté avec le présent. Après effectivement, donc là il y a des moments assez durs, mais par contre ce qui est très riche, c'est qu'on partage des idées. La CIP c'est pas un syndicat, c'est une association en fait de personnes entre elles, mais c'est pas un syndicat, donc...
Qu'est-ce qui est important pour toi de dire c'est pas un syndicat ? Qu'est-ce que ça souligne ?
Ça souligne deux choses, c'est-à-dire qu'on a, y a plein de gens dans la CIP qui sont qui n'ont pas d'étiquette politique, ou qui en ont, mais on ne va pas les juger là-dessus, en fait. On est là dans une émanation d'une
syndicat,
idée.
Ça se dit à politique aussi, hein. CGT se dit ne pas avoir d'appartenance politique.
D'appartenance politique, mais c'est un syndicat qui a quand même une organisation très forte et puis un passé à la CGT.
Une hiérarchie,
voilà, la CGT, c'est les gens de la CGT. Et quand la CGT dit quelque chose, il faut suivre la CGT. Là, la CIP, il y a des gens de tout horizon. Et il y a des gens qui viennent et puis qui après peuvent pas venir, mais ils viennent donner un coup de main de temps en temps, quand ils peuvent en fait. Parce que c'est une coordination d'intermittents et de précaires. Et donc c'est des gens qui peuvent pas se permettre forcément. Nous on est assez confiants en fait sur la suite du conflit et la mobilisation des gens. Je prends l'exemple de la CFDT qui encore une fois c'est des gens à qui il faut pas laisser un stylo à côté parce qu'ils signent n'importe quoi. Et effectivement dernièrement il y a eu un truc sur un mouvement, pardon, comment on dit, dissident de la CFDT. Alors je sais plus le mot qu'ils employaient, mais c'est fini de trahir, quelque chose comme ça. Donc au bout d'un moment, ce qui est difficile, et on l'a vu pendant les retraites aussi, quand la CGT s'est retirée, ça passe. Et je crois que les gens en ont marre et le voient bien, et donc ils prennent aussi leur disposition eux-mêmes. Et c'est ce qu'on voit notamment dans le collectif, dans la convergence des luttes, en fait. C'est des gens qui vont venir justement à la CIP ou à Nuit Debout ou à Bordeaux, le collectif 33 justement, qui s'organise pour faire des actions en dehors du cadre CGT et compagnie, j'ai envie de dire.
Est-ce que tu vois, pour nous, par exemple, le fait d'avoir occupé, disons, des places fortes, bon, là c'est de la culture, mais ça aurait pu être d'autres choses. Ça résonne de manière très intense pour nous, puisque une des hypothèses politiques, tu vois, qu'on a parmi différents groupes qui s'organisent à l'échelle de Bordeaux, c'est en occupant des lieux publics, mais aussi des lieux tenus par des propriétaires non privés, etc. Dans ces lieux-là, tu bascules dans quelque chose d'irréversible, en fait, ta vie quotidienne la vie politique sont plus vraiment séparées, et tu as une manière déjà de te projeter dans la ville qui est plus celle classique de « bon, ben là, pour vivre, il faut que je taffe, il faut que je paye ci, il faut que je paye ça », mais plutôt, bon, mais collectivement, comment on se réapproprie certains outils, etc.
Ouais.
Et donc, vous décidez d'occuper le TNBA, par exemple, nous, on se dit « ah, trop bien », c'est ce genre de choses qui nous parle. Et en fait, nous, par exemple, c'est ce qu'on a envie de continuer. Enfin, c'est une des hypothèses qu'on fait pour la suite. à savoir quand là les assemblées se réunissent ici, on se dit bah, en fait il faut que ça continue à trouver des lieux communs. Mmh. Et ce qui est inédit notamment dans ce mouvement à Bordeaux, c'est de voir, et ce qui nous réjouit, c'est de voir à quel point des syndiqués, mais des non-syndiqués, des jeunes, des précaires, des, etc. etc. Arrive quand même plutôt bien à se parler, à se mettre au point sur des actions de blocage. Mm-hmm. Et ça, on a envie que ça continue, quoi. Je sais pas ce que toi, ouais, ce que t'en penses.
Mais sans, on a envie aussi que ça continue, c'est sûr. On a envie de régler. Je pense qu'il y a plein de combats à mener, en fait. De toute façon, je vous parlais des fronts qui nous occupent en ce moment sur les conventions unidiques ou quoi que ce soit. Mais au-delà, on est vachement sensibilisés sur tout ça, sur le problème, sur les accords TAFTA, sur tout ce qui fait qu'on est en train de s'intoxiquer et la tête et le corps. En fait, et ça, c'est quelque chose qui peut pas durer. Je crois qu'en fait, ce qui peut pas durer, c'est que il n'y a pas de dialogue. Il y a des personnes âgées, il y a des intellectuels, il y a des travailleurs. C'est ça qui est hyper riche, en fait. C'est que on se retrouve. On essaye de nous diviser beaucoup, mais au-delà, nous, on s'unit en fait juste par un ras-le-bol général. Et la réponse à la survie, c'est de se planter devant un endroit, aller faire des actions de blocage, mais aller demander des comptes aussi, comme a pu faire la CIP à plusieurs reprises à Pôle emploi. On s'est invité dans des accords lors des réunions des comités d'établissement, on s'est invité pour couper court à tout ça, parce que voilà, rien n'est écouté, donc voilà, ils parlent entre eux, et puis en plus de ça, la direction impose la ligne imposée par le MEDEF. Au niveau de la convergence des luttes, donc c'est pas qu'une idée non plus financière et économique. On essaie de réfléchir vraiment sur quelque chose d'un peu, même si c'est le nerf de la guerre, on est d'accord. On essaye d'être pas trop touché par ça en permanence, en fait, même si on nous chasse, on revient à 10, quoi. La suite du conflit et qu'on arrivera au retrait, de toute façon ils ont pas le choix. C'est l'escalade de la violence et il faut que ça cesse.
Pour la suite, la CIP appelle à des actions de blocage et de grève dans tous les festivals cet été, mais aussi appelle toutes les personnes enthousiastes et déterminées à manifester et à sortir dans la rue le 14 juin, soit à Bordeaux, soit à Paris. Pour les joindre, c'est cipgironde@gmail.com ou sur les réseaux sociaux.
De la bande organisée à la bande FM, Potlatch 90.1 sur la clé des ondes.
Un message, monsieur ?
Non ! Les flics ! Ils nous encombrent ! Ils nous serrent comme des sardines dans une boîte ! Et la boîte, elle explose ! Et après, ils vont nous dire que c'est nous qui avons sorti de la boîte, mais non !
Vous pensez que ces répressions, ces émeutes sont organisées ?
Elles sont organisées par la police, oui. Ils sont devant, ils sont derrière, ils sont sur les côtés. Ils sont en hélicoptère là-haut et ils sont sûrement dans les égouts. C'est d'ailleurs où ils ne devraient pas sortir. Voilà la ligne.
Et maintenant, les manifs sauvages à Bordeaux. Elles ont commencé le 28 avril, ou en tout cas une tentative s'est faite le 28 avril, la manif du 28 avril. Et c'est ce qui a clairement changé la donne dans le rapport de force à Bordeaux. Et,
on a vu fleurir des banderoles très inventives.
Vas-y.
Dans les, Un des points clés dans les manifs sauvages, je pense, c'est vraiment à chaque fois que les personnes qui voulaient s'organiser, elles avaient une banderole. Et juste, il y avait des phrases qui étaient chouettes. On a fait une liste un peu de, à chaque fois, les phrases. Donc il y en avait une, je ne saurais pas dire les dates à quoi elles correspondaient, tatitata, mais il y en a une qui était à table. Ouais. Je ne ferai pas de commentaires, mais la poudre est pesée, tout est bon, tout est prêt. Il y en avait une autre, c'était Burnout Général. Il y en avait une, c'était Il n'y aura pas de présidentiel. Et la gazeuse, ça m'émeute. Une autre, c'était Jeunesse insurgée, rien à perdre, tout à gagner. Je pense que celle-là, c'était au tout début, parce qu'au fur et à mesure, ça s'est un peu libéré, on va dire. Après, il y avait Ton mal, mon bien. Il y a eu Le désordre s'organise. Il y en a une qui était rêvée, c'était Veganism is the only trust. J'ai un anglais très mauvais, mais on l'a pas fait, elle n'a pas été faite.
Est-ce que quelqu'un pourrait dire c'est quoi une manif sauvage? Allez.
Une manif sauvage, c'est. C'est vraiment un moment où on peut vraiment se réunir ensemble avec tous les gens qui sont captés et qui ont réussi à s'organiser ensemble pour avoir le plus de liberté possible dans la rue, et surtout à Bordeaux où on ressent vraiment un truc de liberté, comme si la rue était vraiment à nous en fait, et une ambiance tellement chaude en fait, et une montée de tension qui nous donne envie de faire tout ce qu'on veut, quoi. Voilà.
Allez, quelqu'un d'autre? Est-ce que ça... Peut-être parler du 28 avril? La tentative du 28 avril?
Le 28 avril, c'était assez laborieux parce que c'était vraiment c'était la première, et en fait, on savait pas que ça, c'était possible. Mais il y avait une tentative assez forcée, en fait, de partir vers la gare. Du coup, on a dû rester au moins une demi-heure à essayer d'expliquer aux gens déjà qu'on voulait partir à la gare, de motiver certains syndiqués de venir suivre ce mouvement-là. Et petit à petit, en fait, c'est venu. Je crois que les premiers syndiqués qui ont suivi le truc, c'était l'inspection du travail. Donc ça, c'était assez drôle de voir qu'il y avait juste quelques jeunes et puis eux avec leur pauvre petite banderole. Et après, oui, voilà, c'est parti vers... Ça, c'était une des premières. Du coup, c'était un peu ligne directe. C'était pas très mobile. C'était pas très... pas très efficace, mais on est arrivé, je sais plus jusqu'où on est arrivé en fait.
Jusqu'à
Total et Conservatoire, ouais. Ouais, voilà. Et puis là, il y avait en fait, je pense que vu le temps qu'on avait mis, les flics ont eu le temps de s'organiser. Et une fois en fait, on a voulu prendre un virage, et voilà, les flics ont. Je sais plus ce qu'ils ont fait.
C'est vraiment un moment où on a cherché la première confrontation avec la police, et là, on a vu que c'était un peu. Un mauvais choix, quoi.
Mais c'est la première fois aussi depuis longtemps que la simple possibilité de couper court au parcours habituel des syndicats se matérialisait à nouveau. Et ça, rien que ça, ça a été vraiment très joyeux. Se retrouver à presque 1000, entre 800 personnes et 1000, à défier la police et défier la rue.
Je pense que ça correspondait précisément au désir du mouvement, qui était un désir d'immédiateté, de non-représentation. Je pense que dire ça, c'est pas du tout un truc fantasmé. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, j'ai l'impression que ce sur quoi on s'est beaucoup retrouvé, et qui a fait que plein de jeux de composition étaient possibles, et qu'on s'est senti fort dans les manifs sauvages, c'était que, principalement, ce mouvement, c'était se ressaisir de nos existences. Et en fait, j'ai l'impression que les manifs sauvages, c'était la forme juste, une des formes justes, on va dire, pour faire ça.
Ouais, moi je me souviens particulièrement de celle justement dont on a déjà parlé juste après le 49-3. Et en fait, il y avait une AG qui a décidé de partir en cortège une demi-heure ou une heure après, en disant à tous les gens de se retrouver. Moi, à ce moment-là, je buvais un coup rue Sainte-Cat. Et en fait, je buvais un coup et il y a juste toute la manif qui déboule rue Sainte-Cat. Et ça, c'était vraiment cool de se dire que voilà, à Bordeaux aussi, c'est possible. Juste, tu bois un coup et pouf, une manif qui déboule. Et en plus, il y avait une trop bonne énergie, des fumis, ça chantait et tout ça. Et, Enfin, vraiment, ça fait autre chose que les manifs habituels où tu y vas et tout ça. Là, tu te laisses prendre par une énergie et puis tu as vraiment, effectivement, l'impression qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Et ouais, d'ailleurs, ce jour-là, il y a eu pas mal de choses de tenter. On est passé dans les passages rue Sainte-Catherine, là où il y avait des magasins. On a semé les flics un peu en faisant des détours. Les quelques fois où on les croisait frontalement, on déviait et on les contournait. Et c'était vraiment assez chouette d'être sur ce mode-là.
C'était une nocturne, celle-là.
Ouais, enfin, ouais. Bah, c'était juste après la décision du gouvernement d'utiliser le 49-3. Et donc, ça, c'était quand même vraiment cool.
Ouais, et du coup, c'est en venant au 28, c'est un petit peu le 28 qui a fait que on a vu que c'était possible de bouger. C'était possible de partir et qu'on avait du monde derrière, qu'il y avait 800 personnes qui étaient super chaudes. Voilà, même si ça n'a pas abouti à vraiment quelque chose de précis à la fin, tout le long, tout le cours, c'était vraiment voilà, les syndicalistes qui voient les flics taper sur les jeunes et commencent à chanter tous ensemble des slogans anti-flics. Enfin, c'était un peu le moment un peu cool qui a débloqué quelque chose.
Et le 1er mai, toutes ces personnes-là se sont retrouvées. Dans un premier temps, on avait l'impression à nouveau d'un truc un peu morose. Et finalement, il a suffi d'une sono et d'une banderole pour que les forces, disons, les plus déterminées s'agrègent. Elles se retrouvent cours Victor Hugo. Et il faut rappeler que c'est aussi les premières fois où des personnes ont se sont organisées pour empêcher des arrestations. Alors, ça n'a pas toujours réussi, mais on sentait que tout le monde était unanime là-dessus. On est un cortège qui marche. On marche ensemble, on se défend ensemble. Et potentiellement, on attaque aussi ensemble.
Et j'ai l'impression que peut-être qu'une des modes à Bordeaux, ça a été les œufs de peinture.
Et c'est les œufs sur crâne d'œuf.
C'est un peu la modalité qui permettait de vraiment jouer avec l'espace urbain à ce moment-là. Et c'était de pas seulement attaquer les banques, mais quelque chose d'aussi symbolique et fort qu'est InCité à Bordeaux. InCité qui est ce gros promoteur qui se fait passer pour un service public, notamment dans le quartier Saint-Michel, qui ont racheté énormément d'espaces dans le quartier Saint-Michel, qui lui se faisait prendre pour cible à chacune des manifs sauvages. C'était vraiment le truc où les gens se faisaient plaisir, quoi. Et l'autre modalité, c'était vraiment de surfer entre les différentes rues, les petites rues de Bordeaux, d'essayer de semer les flics et de faire la manif qu'on voulait faire, quoi.
Mais ça, c'était...
Vas-y.
Il y en a une qui était assez tarée, en fait, où on était... Je sais plus exactement laquelle c'était, on était assez nombreux. Et en fait, où il y avait vraiment une détermination de fou, où les gens, enfin, à un moment, on était rue Sainte-Catherine, il y avait une ligne de flics, et en fait, le simple, c'était en mode non-violent, mais en fait, ça poussait, et juste le petit cortège qu'on était, enfin, on était assez nombreux quand même, on est passé Sainte-Catherine, et c'était hyper puissant de se dire, en fait, là où on veut aller, on y va, quoi. Et il y a un slogan, c'est on est nombreux,
on fait ce qu'on veut.
Ouais. Ça, c'était trop cool. Il y a pas de moment, c'était trop cool de le dire.
La rue Sainte-Catherine a été souvent un point de fixation, quoi. C'est arrivé à 2-3 reprises et les gens restaient assez nombreux derrière le cortège de CRS ou de BACE, qui sont de plus en plus nombreux sur Bordeaux. Après, j'ai l'impression que ce que ça, en dehors de... ça excite pas mal de monde, tout ça, et quand même une des choses vraiment très intéressantes qui se passe dans ce genre de moment, c'est vraiment la constitution d'une repolitisation d'une génération... en France, et là un peu précisément à Bordeaux, mais c'est quelque chose qui n'existait pas à Bordeaux. C'est tout simplement, ça n'existait pas à Bordeaux.
Et ouais, c'est ça. Ça fait des précédents, et ça c'est ce qui donne à fond d'espoir là pour les prochains temps à Bordeaux, parce que dès que il y a eu plein de manifestations organisées hors du mouvement tout le temps, et à chaque fois c'était la même rengaine de oui, mais c'est pas possible de faire ça à Bordeaux, les flics ils sont comme ceci, à Bordeaux on n'arrive pas à se tenir, à Bordeaux tout ça. Et juste là, c'est bon, c'est pas possible, quoi, on peut plus se reposer là-dessus, Et on voit qu'on est capable de faire des choses ensemble. Après, voilà, faut qu'on arrive à être intelligent là-dedans. Mais en tout cas, c'est juste, on ne se dit plus à Bordeaux, c'est pas possible d'eux. Là, il y a des choses qui sont possibles et il faut qu'on s'y mette. Quoi.
Il y a eu une petite habitude aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est ancré dans Bordeaux, c'est que les gens ils s'attendent vraiment à ce qu'il se passe quelque chose pendant la manifestation et ne peut rien se passer. Quoi. Ça peut pas être juste une marche habituelle. Quoi, ça.
Et le lieu où ça se passe, c'est les manifs sauvages. C'est-à-dire maintenant, beaucoup de manifs sauvages ont eu lieu après, à la fin du manif syndical. La plupart ont été comme ça, c'était quelque chose de, au fond, assez courtois avec, avec les syndicats, de pas faire dévier la manif en cours de route. Donc à chaque fois, ça a été attendre le point final de la manif syndicale. Et là-dedans, le truc important à dire aussi, c'est que il y a des syndiqués qui suivent, quoi. Et notamment la CGT Ford de Blanquefort, à chaque fois, a suivi. Donc c'est pas non plus quelque chose d'aussi binaire qu'on l'imagine, quoi. Et il n'y a pas seulement des moins de 20 ans qui participent.
Mais de leur part, de la part des syndiqués qui rejoignaient ces manifs, il y en a d'une, des gens qui aimaient ça, mais aussi d'autres qui, quand on discute avec eux, qui disent que c'était aussi un gros signe qu'ils voulaient lancer à leur base syndicale. Quoi. Du coup, je pense que là, il y a vraiment un lieu de rupture, que la manifestation sauvage elle a pu opérer, qui est classe.
Est-ce que d'autres gens ont envie de dire des choses sur les manifs sauvages à Bordeaux ?
C'était cool.
C'était de la balle.
Bon, donc maintenant on va.
Quand bien même les manifs
sauvages. Parle bien près du micro.
Ouais. Quand bien même les manifs sauvages ont eu cette capacité à déjouer un peu les dispositifs policiers, dispositifs syndicaux. De cette manière-là, qui était de surgir un peu dans n'importe quelle rue, faire face à la police, puis repartir dans une autre rue. Un des faits qui était assez récurrent, c'était à chaque première confrontation qu'on avait, que la manif sauvage avec la police, c'était de se retrouver avec une confrontation du coup directe, de face à face, et des policiers qui tentaient à chaque fois d'arracher la banderole, et la plupart du temps, on se retrouvait sans banderole. Et le fait de se retrouver sans banderole dans ces manifs, ça a créé un peu cette espèce d'effet de dispersion qui fait qu'on avait du mal ensuite à se retrouver et à pouvoir continuer cet effet de surprise dans la ville. Et du coup, c'était un peu une victoire pour les keufs d'une certaine manière, quoi. Mais tout en sachant que les banderoles n'ont jamais été aussi bien tenues et que les gens derrière étaient assez organisés, suffisamment bien organisés pour pas les perdre à chaque fois, quoi.
Quand les fois où justement on a perdu les banderoles, il y avait un truc un peu bizarre qui se passait, c'était la volonté de passer le cordon des CRS en disant CRS avec nous. Ça, faudrait éviter. Voilà, c'est tout.
Par contre, quand un plot s'enfonce dans la vitre du commissariat des Capucins...
C'est des choses qui arrivent. Hein,
on se réjouit.
C'était un moment assez fou quand même d'arriver au Capucin et d'atteindre le commissariat. C'était un très très beau moment.